Vous êtes sur RTL.
17h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Justement, cette Coupe du Monde de rugby, depuis le temps qu'on en parle, les voici enfin les débuts du 15 de France dans ce Mondial 2019 organisé au Japon, avec d'entrée de jeu un match à qui tout double, France-Argentine à 9h15, et malheur aux perdants dans une poule où figurent également les redoutables Anglais. C'est la 52e fois que Coq et Pumas se défient, les Bleus ont gagné à 36 reprises, et la dernière défaite remonte à 4 ans. Alors même si l'équipe de France est moyenne ces derniers temps, Serge Betsen, l'ancien international, veut y croire.
Je la vois comme je nous voyais en 2007, à savoir avec beaucoup d'incertitudes dans ce qu'on pouvait produire, mais en même temps la volonté collective de pouvoir aller loin dans cette compétition qui est incroyable. C'est vrai que la France a une réussite dans les Coupes du Monde depuis toujours, et aujourd'hui il faut retrouver cette confiance et retrouver cette énergie collective qui va les amener à se dépasser.
Serge Betsen au micro RTL de Patrick Hisson. Ce sont les jeunes Toulousains Dupont et Ntama qui constitueront tout à l'heure la charnière centrale. Médard sera à l'arrière, Guirado le capitaine. Une rencontre disputée à Tokyo et qui sera suivie bien sûr un peu partout en France à l'heure du petit déjeuner. Exemple dans la patrie de l'un de ces bleus, Baptiste Serin, dans les Landes. Sur place pour RTL, Denis Grandjouf.
Oui, même si Baptiste Serin, qui a longtemps porté le maillot noir et blanc de Parentis en Borne, ne jouera pas ce matin, les petits rugbymen landais, eux, ont une furieuse envie de voir jouer les bleus et surtout de les voir bien joué.
On va les gagner 13-0 ou 30-0.
Ils vont pas marquer de points?
Non. Ben si, ils jouent bien au début, ils marquent un essai au début, ok, mais à la fin, nous, on en marque.
Ils sont nuls.
5. Non, moi, je suis sûr.
Bon, parfois, au-dessus d'une mêlée ouverte s'envole une statistique étrange et il faut bien le dire, non vérifiée.
On est sûr à 58% que
la France va pas aller jusqu'en finale.
Contre les Anglais, on va perdre.
Bon, non, il faut pas dire ça.
Bon, dites-moi, d'abord, on joue contre qui?
L'Argentine.
Patrick est entraîneur en chef à Parentis en Borne. Il a joué, il y a longtemps, avec Jacques Brunel, le sélectionneur des Bleus, et lui aussi, à sa petite idée.
Ah, ça a été loupé en 2000, c'était quoi, 2011, à Nouvelle-Zélande? Après, pourquoi ne pas rêver? Pourquoi ne pas rêver? Mais peut-être, les Français sont capables de tout, du meilleur comme du pire.
Bon, les enfants, avant ce France-Argentine, un dernier mot?
Oui.
Reportage RTL, Denis Grandjouf, France-Argentine, 9h15. Donc tout à l'heure, on joue depuis 25 minutes au Japon entre Australiens, non, depuis un quart d'heure précisément, entre Australiens et Fidjiens. C'est le premier match de la journée. Le score 8-0 pour les Fidjiens face à l'Australie. Et puis au programme également ce samedi, un choc entre Costa, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Ça pourrait être une finale. Le coup d'envoi tout à l'heure à 11h45 avec l'incontournable AK des All Blacks. Et un dossier complet sur cette Coupe du Monde de rugby, évidemment, sur notre site rtl.fr. Le football et la Ligue 1. Première victoire de la saison hier soir pour Strasbourg lors du coup d'envoi de la 6e journée. Les Alsaciens ont battu Nantes 2-1. Cet après-midi, Marseille reçoit Montpellier, c'est à 17h30. Et puis 5 matchs au menu du multiplex RTL. Le Parisien aujourd'hui en France entre 19h30 et 23h avec Christian Olivier. Et notamment Bordeaux-Brest ou encore Reims-Monaco à l'affiche et au menu des détails sur notre site. C'est donc un samedi particulier qui débute. On aurait pu vous parler des journées du patrimoine. Heureusement, elles auront lieu un peu partout dans le pays avec l'ouverture au grand public de monuments, de musées, d'entreprises et de lieux insolites. Seulement à Paris, les festivités sont quelque peu contrariées par le 45e acte des Gilets jaunes. Des appels à relancer massivement le mouvement ont inondé les réseaux sociaux ces dernières heures. Plusieurs rassemblements sont programmés dans la capitale et vont se télescoper avec à la fois une marche pour le climat et une manifestation force ouvrière contre la réforme des retraites. Les autorités craignent le déploiement de plusieurs centaines de Black Blocs. Du coup, 7500 policiers et gendarmes sont mobilisés, autant que pour un 1er mai. C'est dire si ce samedi inquiète, à tel point que le président en personne, Emmanuel Macron, a pris hier soir la parole.
Nous sommes un pays qui est attaché au droit de manifester, à cette liberté. Mais il faut que ça puisse se faire dans le calme. Je sais que tous ceux qui manifestent sont aussi attachés à ce que eux-mêmes, parfois, leur propre famille et leurs concitoyens puissent pleinement profiter de ces journées du patrimoine. Donc j'appelle chacun à ce que tout ça puisse se faire en bonne intelligence, en concorde et dans le calme, pour que nos plus jeunes et nos moins jeunes puissent visiter les bâtiments, s'enrichir et continuer à porter ce qui est la vocation profonde de notre pays. Cet art d'être français dont j'ai parlé, c'est aussi cette capacité à savoir d'où nous venons et à continuer à nous enthousiasmer pour la culture, des vies extraordinaires et des monuments qui les portent.
Le président Macron face au micro RTL de William Galibert. Alors peut-on rêver d'une journée sans débordement? Les prochaines heures nous le diront. Mais les Gilets jaunes veulent profiter d'une colère multiple pour faire converger les luttes. Gauthier de Lombugard a passé un coup de fil à l'une des figures du mouvement, Jérôme Rodriguez.
C'est plus une convergence aujourd'hui des idées citoyennes, aussi bien en termes de climatologie que les différents syndicats sur les réformes de retraite et l'ensemble des revendications qu'on peut connaître chez les Gilets jaunes. En fin de compte, tout cela ne représente qu'un et il serait bon qu'on puisse se rejoindre les uns les autres. Et le but commun, qui est celui du mieux vivre, parle à l'ensemble. On vivra mieux si le climat nous le permet, on vivra mieux si on nous permet d'avoir moins de taxes, de pouvoir vivre notre salaire. Et tout ça, ce sont des combats que chaque entité combat depuis des années et nous, on combat depuis 9 mois à eux de venir s'intégrer à ce mouvement citoyen uniforme en tous les cas.
Et concernant le rassemblement parisien, c'est dès 9h tout à l'heure, place de la Madeleine et puis dans le secteur des Champs-Élysées. Le cortège de Force ouvrière s'élancera à 13h30 de Duroc et la marche pour le climat à partir de 14h de la place de la Nation. Je vous parlais justement de manif pour le climat ce samedi dans les rues de la capitale. Sachez que ce sera partout dans le monde à l'image d'hier. Ce sont les jeunes qui se sont rassemblés, qui ont défilé comme ils le font depuis plusieurs semaines. Ils étaient 10 000 à Paris, ils étaient nombreux à Sydney, à Séoul, à Manille ou encore à Bombay. Nombreux également à New York, Philippe Corbet, derrière la leader du mouvement, la jeune Suédoise Greta Thunberg.
Oui, 250 000 manifestants à Manhattan, beaucoup d'ados avec des pancartes très créatives. C'est impressionnant, même si la ville avait autorisé plus d'un million d'élèves à rater les cours pour l'occasion. Dans la foule, il y a des optimistes comme Josh.
Nous avons des moyens pour réduire toute cette énergie fossiles comme des voitures électriques avec des panneaux solaires.
Ça va pas être simple.
Il faut encore des améliorations.
D'autres plus pessimistes comme Manal.
D'ici 10 ans, d'ici 20 ans, je ne verrai plus d'espace vert, je ne verrai plus de neige. Mais vous, en tant qu'adulte...
Est-ce que ça n'est pas trop pessimiste? Il y aura certainement des espaces verts encore dans 10 ans.
Non, ce n'est pas pessimiste, c'est notre futur en question.
Et beaucoup crient Greta. Greta Thunberg.
Nous ne sommes pas seulement des jeunes qui ratent l'école. Nous sommes le réveil du changement. On ne nous arrêtera pas.
Et elle espère que cette mobilisation de plusieurs millions de personnes à travers le monde sera entendue par les dirigeants de la planète réunis ici lundi à New York pour le sommet du climat.
New York où vous vous trouvez aux États-Unis, bien sûr, notre correspondant Philippe Corbet. Au Japon, on apprend que la première audience publique du procès de Carlos Ghosn est prévue pour avril 2020. Il sera entendu tout comme d'actuels et anciens responsables de Nissan. Carlos Ghosn est sous le coup de 4 inculpations après son arrestation de novembre 2018. Il est libre depuis le printemps dernier, mais assigné à résidence à Tokyo, avec interdiction de voir et même de contacter son épouse. Dans un instant, rendez-vous le 9 décembre prochain. Le jugement du procès de Jean-Luc Mélenchon et de ses camarades de la France Insoumise a été mis en délibéré après 48 heures, c'est vrai, de grand théâtre. A tout de suite.
RTL Matin. Lidl.
Suite de RTL Matin, 7h10, Stéphane Carpentier.
2 jours de procès et puis s'en vont. Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses camarades étaient jugés à Bobigny pour intimidation et rébellion suite à la perquisition houleuse du siège de la France Insoumise en octobre dernier. Le parquet a demandé hier 3 mois avec sursis et une amende de 8000 euros à l'encontre du grand chef du parti, lequel n'a eu cesse, comme il avait fait les jours précédents, de parler de procès politique. Pendant 48 heures, ça a été plus du théâtre qu'autre chose, avec au milieu de la scène un Jean-Luc Mélenchon, Marie-Bénédicte Allaire, très inspiré.
Vous me persécutez depuis des mois et vous voulez que ça dure et que ça dure et que ça dure, si ça pouvait durer jusqu'à la prochaine présidentielle. Jean-Luc Mélenchon ironise en s'adressant au procureur à la toute fin du procès, puis il se tourne vers les juges. Relaxez-moi et ça s'arrêtera. Ça, ce sont les images de perquisition qui ont coûté si cher à la France insoumise dans les urnes. Mais après ces 2 jours, le député européen Emmanuel Morel estime que le procès a tourné à l'avantage des insoumis.
Les avocats de la partie civile avaient été quand même assez faibles dans leur argumentaire. Je crois que maintenant, il est temps de tourner la page et Jean-Luc Mélenchon a eu le mot juste.
Maître Mathieu Davy, l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, espère lui aussi obtenir la relaxe afin qu'on cesse de renvoyer les insoumis à leur attitude agressive au cours des perquisitions du siège de leur mouvement.
Il faut que ça s'arrête pour eux, pour pouvoir retravailler sereinement, tourner une page qui est douloureuse. Maintenant, j'espère, ils vont pouvoir penser à autre chose et se remettre au travail comme ils y étaient avant.
On vous voudrait revenir à la politique, explique un ami de Jean-Luc Mélenchon. Mais les insoumis devront encore attendre un peu. Le jugement du procès a été mis en délibéré au 9 décembre.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Quel avenir pour XL Airways et ses 570 employés après Aigle Azur à l'arrêt? C'est une autre compagnie française qui est dans le rouge. Le PDG Laurent Magnin a lancé hier midi sur RTL un appel pour réunir les 35 millions d'euros nécessaires pour faire repartir l'activité de la compagnie déclarée en faillite depuis jeudi. Il faut trouver l'argent d'ici la fin de la semaine prochaine et à défaut d'une reprise, les vols ne seront plus assurés dans quelques jours. La vente de billets s'est même arrêtée hier soir. Aigle Azur plus XL Airways, cela devient très compliqué, Arnaud Touche, pour les agences de voyage.
Oui, la rentrée est très compliquée pour les voyagistes. Nicolas Brumelot est le président de Mr Fly, une agence de voyage en ligne. Il doit désormais faire face aux faillites de deux compagnies.
La première compagnie, la première défaillance, ça m'a mis en colère, ou ça nous a mis en colère. La deuxième, c'est l'exaspération.
Et c'est le même constat, la plupart des passagers ne seront pas remboursés. Voilà pourquoi ils souhaitent mobiliser les voyageurs.
Il faut maintenant que les passagers s'associent aux professionnels pour se révolter et exiger la mise en place d'un fonds de garantie.
Et pour Nicolas Brumelot, cela doit passer par une nouvelle obligation pour les compagnies aériennes.
Il suffirait de prélever 10 centimes d'euros sur l'ensemble des passagers qui ont voyagé et ça permettrait de construire une caisse de garantie chaque année de 400 millions d'euros qui est amplement suffisant pour protéger le fonds de l'ensemble des voyageurs partout dans le monde.
Et cette création d'une caisse de garantie est aujourd'hui soutenue par la Fédération des entreprises du voyage.
Merci Arnaud Touche, ça va pas beaucoup mieux, sachez-le, pour Thomas Cook, le voyagiste britannique est aux portes de la faillite et a besoin de plus de 220 millions d'euros supplémentaires pour rester en activité. Dans le cas contraire, il faudrait organiser immédiatement le rapatriement de 600 000 touristes à travers le monde, dont 150 000 britanniques. Toute l'actualité, c'est quand vous le souhaitez, évidemment, vous allez cliquer sur notre site. Premier site Radio de France, RTL.fr. On salue les auditeurs. Denis Dole dans le Jura. La lune brille, tout va bien, il a 12 degrés. On nous signale 17 degrés actuellement sur la ville de Limoges. Et puis Annie qui est à Argelès-sur-Mer, il y a des grosses pluies orageuses.
Ça y est, c'est du sérieux.
Ouais, dans le sud, ça se précise. Patricia est là pour nous informer concernant le temps. Bien entendu, on attend vos infos, vos SMS 64 900 code matin et la page Facebook RTL Matin. Oui.